France Culture.
Bonjour Beata Omoubieyi-Mérès.
Bonjour.
J'ai intitulé ce troisième temps de nos entretiens à voix nue « La solidarité des ébranlés ». En fait, c'est une notion du philosophe tchèque Jan Patočka que vous reprenez à votre compte pour qu'on parle pendant cette demi-heure des engagements humanitaires et sociaux qui ont été les vôtres, parce que quand vous entrez dans la vie active, vous choisissez de vous impliquer dans des combats symboliques contre la mort, on va dire ça comme ça, lutte contre le sida, addiction, suicide. Peut-être pouvons-nous commencer par la lutte contre le sida, parce que ça a été un peu la première, cette envie de vous impliquer dans cette lutte, et elle ne vient pas de nulle part. Dans les années 80, le Rwanda, c'était un des pays les plus touchés par la maladie. Et puis pendant le génocide, je vais vous laisser raconter, mais pendant le génocide, le VIH était très présent. Vous-même avez failli être violée par un homme séropositif.
Oui, j'ai été à deux doigts d'être violée par un militaire. À ce moment-là, je ne sais pas qu'il est séropositif. Il a la peau du visage très abîmée et ce n'est que beaucoup plus tard, alors que je travaille pour Médecins Sans Frontières, alors qu'un mon collègue italien, Alessandro Soria, et me montre une photo en me disant « Regarde, c'est un zona facial », que j'ai comme une sorte de flashback et je me dis « Mais c'était de ça que souffrait ce militaire. » Ce dont je suis consciente pendant le génocide, c'est que le viol est aussi une arme de destruction. On estime à plus de 250 000 femmes, tutsis, filles, violées. J'ai appris plus tard qu'il y avait une volonté délibérée que ce crime-là soit aussi perpétré par des hommes dont on savait qu'ils avaient le sida, et que parfois il y avait aussi l'idée de « je ne te tue pas avec une arme, mais ce que je te laisse te tuera à petit feu ». Et je suppose que quand je décide de m'engager dans ce combat, au début des années 2000, inconsciemment, j'ai sans doute ça en tête, mais ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a presque deux rencontres, en tout cas de discours qui vont me toucher énormément. Alors que je suis étudiante à la Sorbonne, je fais ce qu'on appelait à l'époque un DESS en coopération internationale action humanitaire et développement. Je sais que je veux...
Un master aujourd'hui.
Oui, c'est ça, master 2. Je sais que je veux retourner travailler sur le continent, idéalement au Rwanda, et que je veux que ma deuxième existence de survivante soit utile à l'humanité. Alors à 20 ans, on est très, j'ai 22 ans, très, très romantique peut-être. Mais il y a d'abord l'intervention d'un représentant du Conseil national du SIDA, je pense, qui s'appelle Marc 19, qui vient intervenir dans ma classe et qui nous parle de la réalité du sida dans le monde à ce moment-là, en 2002. On est à peu près à 42 millions de malades dans le monde, dont pratiquement 30 millions sont sur le continent africain, 14 millions d'orphelins, dont 10 millions en Afrique. Puis il y a ce chiffre qui, moi, me percute, 10 000 morts par jour. 10 000 morts par jour, c'est le nombre de morts qu'il y avait pendant le génocide contre les Tutsis du Rwanda. Ça me parle énormément. Et puis à la même époque, un camarade de promo me dit « Tiens, il y a des conférences qui devraient t'intéresser au Collège de France ». Je ne sais pas du tout ce qu'est le Collège de France à l'époque. Et c'était un médecin anthropologue qui s'appelait Paul Farmer, qui travaillait depuis une vingtaine d'années en Haïti, d'abord sur la tuberculose et puis avec l'arrivée du VIH, était très impliqué et qui fait une série de conférences qui me marquent, où il parle de... il fait le lien entre les inégalités sociales, les questions d'équité et la maladie. Et ça, ça va aussi me parler particulièrement, Parce qu'au-delà des données biomédicales, il dit, mais en fait, il y a vraiment des questions d'inégalité sociale, de population marginalisée, de population africaine, noire, en faisant le lien évidemment avec la grande histoire, l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, etc., qui sont particulièrement touchées. Et depuis 1996, la trithérapie existe, donc on a des médicaments, on peut vivre avec le VIH et ne pas mourir, sauf que le début des années 2000, c'est vraiment un moment où on dit encore que ces médicaments ne peuvent pas être donnés aux Africains. Enfin, il faut se rappeler que quelqu'un du Trésor, enfin un grand haut fonctionnaire du secrétariat de Trésor américain, je pense, sort quelque chose du genre mais les Africains n'ont pas la même notion du temps, il n'y a pas assez de montres en Afrique, ils ne pourront pas prendre la trithérapie. Les médicaments sont très chers. À l'époque, la trithérapie, c'était 6 000 $ par an, par personne. Et donc, c'est un combat qui est en train de se jouer à cette époque-là. Et moi, de 22-23 ans, je réalise que ce combat-là, c'est celui de donner accès au traitement pour les populations africaines. Il y avait d'ailleurs ce slogan de je ne sais trop quelle ONG, je ne sais pas si c'est MSF, qui disait « Les médicaments sont au nord, les malades sont au sud ». Et donc, je contacte Médecins Sans Frontières pour partir avec eux, d'abord dans le cadre de ma formation. Et je fais une première mission pour la campagne d'accès aux médicaments essentiels, qui est donc un programme lancé par MSF pour justement faire basculer la question de l'accessibilité. Et MSF Suisse, donc là je retrouve des Suisses, MSF Suisse m'envoie au Cameroun pour évaluer le contexte. Je sors aussi d'études de sciences politiques, donc il s'agit vraiment de comprendre ce qui est en train de se passer dans ce pays d'Afrique centrale par rapport à la question de l'accès aux médicaments. On est en 2002. L'année précédente, il y a eu ce qu'on appelle la déclaration de Doha. C'est en fait les pays de l'OMC se sont mis d'accord pour la première fois pour dire les questions de propriété intellectuelle ayant trait aux médicaments. Mais l'ADPIC, c'était un accord sur les questions de propriété intellectuelle par rapport au commerce. Pour la première fois, on face à l'épidémie du sida, on peut se permettre d'émettre ce qui s'appelait des licences obligatoires et de dire on ne respecte pas les brevets des grandes compagnies pharmaceutiques occidentales. Il y a des médicaments génériques qui commencent à être fabriqués, notamment en Inde, et qui font que le prix peut passer de 10 000 $ par an à 350 $, 250 $ par an par patient. Donc là, il s'agit de sauver des populations. Donc ma première mission va être d'aller observer un peu dans un pays donné où MSF agit, où MSF travaille étroitement avec les autorités sanitaires pour voir comment justement ce non-respect de la loi de propriété intellectuelle se met en place et comment les premiers patients vont pouvoir avoir accès à cette trithérapie abordable générique.
Il y a le versant coordination de projet, recherche, observation, analyse pour MSF, mais il y a l'autre versant qui est le versant peut-être plus activiste, enfin, disons que d'humanitaire, la lutte devient plus militante et politique quand vous entrez à ACT-UP et que plus tard vous rejoindrez AIDE. Avec un mélange de recherche-action. Je dis pas ça par hasard parce que recherche-action, c'est quelque chose que vous avez développé aussi ensuite à Ottawa. Et on va y revenir. Mais sur cet aspect d'activisme ou de militantisme, c'est-à-dire que c'était aussi important pour vous, vous découvrez ACT UP Paris.
Oui, la lutte contre le sida a été vraiment mon école politique, fondamentalement. Je reviens de ma première mission de MSF, j'ai compris qu'il y avait des enjeux éminemment politiques, que ce n'était pas, entre guillemets, qu'une épidémie, donc ces enjeux de pouvoir, d'accès au traitement, et j'ai vu aussi, en tout cas j'observe de loin ce qui se passe en Afrique du Sud, où des activistes, notamment ceux du Treatment Action Campaign, ont réussi à entre guillemets, traîner les laboratoires pharmaceutiques en justice en leur disant « mais c'est honteux ce que vous faites ». Et donc, c'était « drop the case », un des slogans à l'époque. Et donc, je suis séronégative, je suis une hétérosexuelle lambda, j'ai pas du tout a priori de raison, si ce n'est en tant qu'africaine, et puis évidemment, je pense en tant que survivante, de m'engager, mais je pousse la porte ACT UP, j'y resterai quelques mois seulement, mais j'apprends énormément, enfin, c'est la période où, notamment dans la commission Nord-Sud, il y a l'organisation d'action des obéissances civiles, les AAP, les DAIN, et l'idée que une pression peut être mise sur les États, sur les gouvernants, sur les laboratoires pharmaceutiques pour faire en sorte que les gens arrêtent de mourir alors que des médicaments existent. Et ensuite, je quitte ACT UP pour repartir en mission avec MSF, qui me rappelle cette fois-ci pour une mission plus longue en tant que coordinatrice de programme à Douala. La première fois, j'étais à Yaoundé. Et évidemment, je suis très jeune, j'ai tout à apprendre, mais là, il s'agit vraiment d'accompagner un programme d'accès au traitement où je travaille avec des médecins, je fais le lien avec les autorités sanitaires locales. Il s'agit de coordonner une équipe dans laquelle il y a aussi un psychologue, des conseillères communautaires, notamment des femmes séropositives engagées. Et j'apprends énormément, et finalement, je retrouverai, alors en moins, peut-être moins activiste qu'ACT UP, le combat de la lutte contre le sida quelques années plus tard avec l'association AIDE à Bordeaux. Mais entre-temps, je suis aussi, comme vous disiez, partie au Canada, à Ottawa. Et j'ai travaillé à l'Institut de recherche en santé des populations sur un projet de recherche-action en santé communautaire, encore une fois sur les questions de prévention et d'accès au traitement en lien avec le VIH-SIDA.
Projet de recherche-action, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que le monde de la recherche se met au service des communautés. Alors au Canada, évidemment, je découvre que le mot de communauté n'est pas un gros mot, qu'il y a une vraie richesse à s'organiser en fonction des problématiques des gens de la même ethnie ou de la même origine ou des mêmes pratiques. Et que pendant longtemps, moi je rencontre notamment une dame d'une association de peuples autochtones, qui me dit quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Elle me dit « We've been researched to death ». On a fait des recherches sur nous, mais ad nauseam, quoi. Et là, maintenant, c'est important que quand des chercheurs viennent dans notre communauté, nous posent des questions sur nos pratiques, sur notre santé, sur les solidarités qu'on développe, ça soit quelque chose qui va nous servir. Ça veut dire que les gens d'une communauté disent « voilà la problématique qu'on a ». Et pour pouvoir peut-être faire du plaidoyer auprès des autorités, auprès des bailleurs de fonds, on a besoin de données. On a besoin d'études qui vont nous permettre de défendre notre cas ou de voir comment on change des choses dans nos pratiques pour améliorer notre santé. Et notamment à Ottawa, je travaille avec des associations afro-caribéennes. Et j'apprends beaucoup sur les questions de santé communautaire. Et ça me servira à mon retour en France dans l'association AIDE, où là aussi, entre autres choses, parce que je vais travailler avec des femmes en situation de prostitution, je vais travailler avec des femmes séropositives, mais je travaille aussi avec les populations LGBTQI et AIDE lance la première recherche-action en santé communautaire en France, en partenariat avec l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, pour changer les pratiques de dépistage. Et là, voilà, c'est la communauté LGBT et les associations de malades qui disent, au moment du dépistage, pour certaines personnes qui ont besoin de se dépister régulièrement parce que le dépistage est aussi une façon de faire de la prévention. Il n'y a pas que le préservatif. Au moment du dépistage, les gens peuvent se sentir jugés, discriminés du fait de leur pratique sexuelle. Et donc, on voudrait que le dépistage puisse être fait également par des acteurs communautaires. Mais ça, il faut changer la loi pour ça. Donc, je participe très modestement avec plusieurs personnes à aide à un projet où, pour la première fois, on fait du dépistage rapide. Alors, c'est aussi le début avec l'épidémie du Covid, c'est devenu tout à fait commun, mais les premiers TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, sont expérimentés par nous dans plusieurs sites de France. Et je me retrouve à faire du dépistage dans le local, dans un camion à la Gay Pride, et aussi à être dans des positions de faire des annonces de séropositivité. Donc voilà, humainement, c'est très fort, c'est très riche, et surtout, nous parvenons, enfin, l'association Aide parvient à changer la loi, et depuis, le dépistage rapide, d'abord du VIH, ensuite il y a eu aussi l'hépatite C, est devenu quelque chose de tout à fait commun dans la société française et a changé quelque chose dans la pratique de prévention. Oui.
En tout, vous avez passé une quinzaine d'années à travailler sur le sida, puisque vous avez quitté Aide en 2015. Mais il n'y a pas eu que le sida, que la lutte contre le sida dans votre engagement, Beata Omobiei-Mérès. Il y a aussi eu la santé mentale. Et même, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup appris aussi, je crois, à un moment avec Xavier Emmanueli, qui présidait le SAMU Social International. Et avec le SAMU Social International, alors là, vous avez beaucoup voyagé en travaillant sur les bidonvilles à Lima, sur les addictions à la drogue à Fort-de-France, à Cayenne, sur les enfants des rues à Dakar. Là, vous étiez peut-être un peu plus dans le champ du social.
Oui, mon passage au SAMU Social International, là aussi, m'a beaucoup appris sur les questions de grande précarité, d'inégalité. Et effectivement, j'ai eu la chance de côtoyer un grand monsieur, Xavier Emmanueli, qui avait été un des fondateurs de MSF d'ailleurs, et puis le fondateur du SAMU Social de Paris. Et à ses côtés, il s'agissait aussi de, en quelque sorte, d'exporter le modèle du SAMU Social de Paris un peu partout dans le monde, en s'adaptant à chaque fois aux différents environnements des grandes métropoles sur les différents continents, en allant chercher des financements. Il y avait aussi toute une partie institutionnelle à chaque fois. Et ça a été encore une fois une belle école de vie, de solidarité et de mobilisation.
Et le troisième champ, c'est donc la santé mentale. À Bordeaux, vous avez été responsable d'un projet de prévention des addictions et de prévention du suicide, aussi bien à Bordeaux qu'en Gironde. Et vous êtes encore, je crois, formatrice de premiers secours en santé mentale. Ça veut dire quoi ?
Oui, c'est quand j'étais responsable du projet de prévention du suicide en Gironde que j'ai été formée, parmi les premières personnes formées pour un nouveau dispositif qui existe depuis 2020 en France, qui est un dispositif qui est importé d'Australie au départ, Mental Health First Aid, qui lui date d'il y a plus de 20 ans. Là aussi, on est dans de la santé communautaire, mais sur les questions de santé mentale. Il s'agit d'une formation de 2 jours qui vise à sensibiliser
le grand public
aux questions de santé mentale, pour que chacun, chacune soit en mesure de repérer une personne qui est en souffrance ou qui est en crise psychique et de l'orienter vers le soin. Et l'idée de développer cette formation dans toute la France vise aussi évidemment à déstigmatiser la santé mentale. Bon, voilà, j'ai été formée au moment où on sortait du premier confinement et où Fort heureusement, on prenait aussi conscience de la réalité des troubles psychiques qui touchent énormément de monde en France. Pratiquement une personne sur quatre va être touchée par un trouble psychique.
Est-ce que quand vous avez commencé, Beata Omoubié-Mérès, ce travail dans le champ du social, dans le champ de la santé, vous étiez... comment dire ça? Est-ce que vous étiez en colère? Est-ce que vous aviez une rage en vous ou qui devait sortir ou s'exprimer d'une façon ou d'une autre? Et est-ce que du coup vous diriez que ça a été une forme d'investissement à côté de la colère, c'est-à-dire que ça a remplacé la colère, ces combats? Ou est-ce que vous étiez vous-même dans un moment où, grâce à l'accueil que vous aviez eu, grâce à la psychothérapie que vous aviez faite, vous étiez dans un moment plus calme et que vous étiez prête à aider les autres parce que vous-même, vous étiez à peu près apaisée? Comment ça s'est passé de l'intérieur?
Ben, j'ai envie de dire les deux, mon général, et je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a de la colère. Et ce que j'ai réussi à faire en m'engageant dans ces combats, c'est à la fois de garder la colère, parce que j'aime beaucoup ce petit texte qu'avait publié Stéphane Hessel, je pense que c'était en 2009 ou 2010, qui s'appelait « Indignez-vous » et qui m'avait tellement parlé, enfin, cette idée que oui, c'est sain d'être en colère, de s'indigner devant des injustices. Mais en même temps, de ne pas faire en sorte que la colère nous détruise de l'intérieur. Parce que quand on n'en fait rien, finalement, et qu'on est enfermé dans une sorte d'impuissance, elle ne peut que se retourner contre nous. Et effectivement, je ne pouvais m'engager dans ces différents combats, et je ne peux continuer à le faire aujourd'hui que parce que je suis plutôt en bonne santé et que je suis sortie, moi, de ce qui aurait pu être une précarité matérielle et psychologique. Mais souvent, les jeunes me disent, quand j'interviens dans les lycées, mais vous n'avez tellement pas l'air en colère, pourquoi n'êtes-vous pas en colère contre les génocidaires, contre ceux qui vous ont abandonné, contre l'État français, etc. Et je leur dis, mais si, en fait, il y a de la colère, mais il s'est agi très tôt aussi, et ça, c'est bon, toutes les femmes racisées comprendront ça. On n'a pas envie d'être stigmatisées comme la personne en colère. Toutes les femmes, d'ailleurs, qui savent que dès qu'on proteste contre quelque chose, on risque d'être traitées d'hystérique. On apprivoise la colère, et pour moi, c'est comme du carburant au quotidien pour mes combats. Et je la garde vive parce qu'elle veut dire que je ne me suis pas laissée enfermée dans le confort et l'indifférence.
Ça aide de faire du bien. D'abord, ça s'apprend, je crois. Vous avez appris beaucoup, vous avez beaucoup utilisé ce mot d'apprendre au cours de cette demi-heure, mais outre que ça s'apprend, ça aide.
Alors, je ne me lève pas en me disant je vais faire le bien.
C'est un j'ai terme... dit du bien déjà, j'ai pas du dit bien. Le bien. Déjà, oui. Volontairement d'ailleurs.
Oui, parce que là tout de suite on est dans quelque chose de l'ordre de la charité chrétienne.
Oui, voilà. Non, faire du bien aux autres. Là on peut dire que vous avez fait du bien à certaines personnes. Bon.
Je me sens utile et j'ai l'impression de ne pas capituler. Et j'aime beaucoup cette expression de Yann Patochka, la solidarité des ébranlés, parce que, alors lui, il avait forgé, je pense, à l'époque, pour parler des soldats pendant la Première Guerre mondiale, mais il y a cette idée que c'est dans le collectif que l'on se répare. On est dans une époque où on a tellement tendance à parler de résilience, alors tout doit être résilient, la nature... les personnes violentées, mais avec presque une injonction de dire tu as en toi ce qu'il te faut, c'est très néolibérale, tu as en toi ce qu'il te faut pour t'en sortir. Et moi, je me défends à chaque fois qu'on puisse me présenter comme un modèle de résilience, parce que je dis non, mais moi, la seule chose qui m'intéresse dans la notion de résilience, c'est les tuteurs de résilience. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu toutes ces mains tendues. Et donc, la moindre des choses est qu'à mon tour, je puisse participer de ce collectif de mains tendues. Et donc, de me sentir utile. Et cette solidarité-là, c'est de trouver d'autres ébranlés et qu'ensemble, nous puissions former cette vie qui traverse la nuit. J'aime beaucoup cette expression. Je pense qu'elle est de Patochka aussi, cette vie qui traverse la nuit. Et ça me fait beaucoup penser à un proverbe rwandais que les rescapés utilisent beaucoup. La nuit ne peut être racontée par celle et celui qui l'a traversée. Et je pense qu'ensemble, toutes les personnes qui traversent différentes nuits peuvent se donner la main. Et justement, c'est cette solidarité-là qui fait qu'on ne s'effondre pas. Et plus que jamais, on en a besoin. Je l'ai retrouvée effectivement dans l'humanitaire, dans le champ des associations. Je l'ai retrouvé aussi dans des mouvements féministes. Et ce que j'ai retrouvé aussi, ce qui moi me tient à cœur, que j'ai vu à ACT UP, mais que j'ai vu quand on a créé la Barbe Aquitaine.
Qu'est-ce que c'est la Barbe Aquitaine?
En fait, la Barbe, c'est un mouvement d'action féministe qui avait été créé à Paris, d'ailleurs par des anciennes d'ACT UP Paris, je crois. Notamment quelqu'un comme Marie de Sénival. C'était un groupe d'action féministe, mais qui était beaucoup dans cette forme-là d'action un peu happening, avec des femmes qui, repérant un lieu de pouvoir ou de décision ou d'organisation phagocytée par les hommes, avec ironie, se mettent des fausses barbes et font un peu intrusion sur une scène en disant « Mais bravo, messieurs, machin, truc et bidule, restez entre vous, le sport, l'art, l'économie sont des sujets trop importants pour les laisser aux mains des femmes. » Et moi, ce que j'aime dans ce type d'action-là, c'est que... C'est qu'on est vraiment dans quelque chose qui peut être très joyeux aussi, même si on est face à, des décisions mortifères, mais cette force du collectif qui peut, dans la lutte, être aussi avec de l'humour, avec de l'ironie, m'a toujours beaucoup portée.
Merci, Beata Omoubié-Imérès.
Merci.
On poursuit demain, si vous le voulez bien, pour le quatrième temps. On parlera littérature, on parlera d'écriture, parce que vous avez quitté Aide en 2015, mais c'est aussi l'année de la publication de votre premier recueil de nouvelles. Donc on va parler de non seulement la vie qui traverse la nuit, mais aussi de la façon dont on peut tracer des virgules entre les mondes. À demain.
À demain.
À suivre l'épisode 4, Tracer des virgules entre les mondes. C'était À Voix Nue avec Beata Omoubié-Imérès, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.